Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du MAG de l'aménagement, du logement et de la nature pour un nouveau numéro consacré à l'outil CARHAB, la cartographie nationale des habitats naturels qui permet d'identifier et de localiser les zones à enjeu de biodiversité. Et pour en parler, je suis accompagnée de Claire de Kermadec. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet connaissance au bureau de la politique de la biodiversité à la DGALN, au sein du ministère en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. À distance, Emmanuel Cato, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur de la connaissance au Conservatoire botanique national de Bailleul. Et Hélène Parmentier, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes chargée de mission mobilisation des territoires à la DGALN au sein du ministère en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et en fin d'émission, vous relayerez pour nos invités les questions de nos auditeurs. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans le chat de l'émission. L'émission d'aujourd'hui porte sur la nouvelle cartographie nationale des habitats naturels, CARHAB, qui permet d'identifier, de localiser les habitats naturels et semi-naturels en France. Elle contribue ainsi à améliorer la connaissance de la biodiversité et à mieux faire valoir les zones à enjeu, notamment dans le cadre de projets d'aménagement du territoire. Alors pour la première question, je me tourne vers vous, Claire. Comment est née l'idée ?
Alors, il faut savoir que les politiques de préservation de la biodiversité ont souvent tendance à se focaliser sur les espèces, alors que la notion d'habitat naturel est tout à fait fondamentale et stratégique. On sait qu'une espèce ne peut pas vivre sans son habitat, donc protéger cet habitat, c'est la protéger indirectement et tout l'écosystème et les services qui l'accompagnent. C'est donc un avantage qui est tout à fait stratégique pour nous. Face à cet enjeu, on a des difficultés en fait à récupérer assez de données en fait sur ces habitats naturels. Il y a beaucoup de structures spécialisées sur les espèces, les associations naturalistes par exemple, qui nous remontent beaucoup de données. Mais dans notre système d'information, on a par exemple 49 millions de données sur les espèces, on n'en a que 1,5 million sur les habitats naturels. Donc il y a un vrai effort à faire pour remonter le plus possible ce type de données, qui comme je vous l'ai dit est tout à fait stratégique. Avec la nouvelle stratégie nationale biodiversité 2030, on a d'ailleurs mis l'accent sur ce besoin de mieux caractériser les enjeux de connaissance et cette problématique d'identification, de localisation des habitats qui donc en fait partie.
Et alors quelle est justement son ambition ?
Alors pour nous, l'ambition première, c'est vraiment favoriser la prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, il existe beaucoup des outils intéressants qui obligent les porteurs de projets à faire des évaluations environnementales, mais on se heurte encore à du manque de données en fait et qui limite du coup beaucoup cette évaluation. La loi climat-résilience nous pousse à diviser par deux notre artificialisation. Mais derrière en fait ce critère quantitatif, pour nous c'est important qu'on ait aussi des éléments qui soient plus qualitatifs. C'est-à-dire qu'on peut par exemple se dire qu'on va diminuer notre artificialisation de 500 hectares, mais si on consomme derrière 1000 hectares de milieux naturels à enjeu, pour nous l'enjeu il n'est pas encore tout à fait respecté. Donc en fait pour nous c'est vraiment ça l'objet de cette carte, c'est faciliter la mise à disposition des données sur les zones à enjeu de biodiversité et in fine limiter la détérioration et valoriser les espaces auprès des collectivités notamment.
Et alors pour quel type de besoin ?
Alors, il y a beaucoup de besoins autour de cette cartographie. C'est une base de données. Donc, à partir de ce moment-là, on peut la croiser avec tout un tas d'autres bases de données. Donc, il n'y a vraiment que votre imagination qui peut vous brider. Mais nous, pour nous, les besoins, ils sont notamment autour de l'aménagement du territoire, bien évidemment. Donc, faciliter la prise en compte des zones naturelles à enjeu dans cet aménagement, faciliter l'évitement dans les projets d'aménagement. Donc ça passe par tout ce qui est les mesures éviter, réduire, compenser, les trames vertes et bleues. Voilà, c'est tout un tas en fait de politiques publiques qui, quand ils ont besoin en fait de localiser ces zones à enjeu, ils ont besoin notamment de les valoriser. C'est important qu'elles puissent s'appuyer sur une cartographie qui va bien. Après, il y a aussi des éléments, on va dire, un petit peu plus indirects qui sont plutôt liés aux services écosystémiques. Donc, c'est-à-dire que chaque habitat naturel rend des services. Et ces services-là, ils sont liés, par exemple, à la dépollution, de la connectivité des espaces, réduire des risques d'incendie. Enfin, on en a beaucoup. Et en fait, on pense que c'est mal connu, que ces zones naturelles, en fait, elles permettent justement de favoriser ces services-là. Et donc, notre but, c'est aussi de pouvoir localiser les zones à enjeu et de montrer les services qu'elles peuvent rendre. Ainsi, les zones à enjeu ne sont plus un frein, mais c'est vraiment une opportunité pour le territoire de valoriser et de pouvoir s'appuyer en fait sur son patrimoine pour répondre à des problématiques qui vont au-delà en fait de l'environnement. Après, la carte en elle-même, elle a aussi une vocation en fait à répondre à des enjeux qui sont purement biodiversité, mieux connaître notre territoire, mieux connaître les habitats naturels, les surfaces qu'ils hébergent notamment, et ça permet de prélocaliser des zones à enjeux où on aurait besoin de faire des inventaires plus particuliers. La carte, mais Emmanuel vous le dira mieux que moi, c'est une modélisation à la base, donc c'est une carte d'alerte. Alors, on a des très bons retours, a priori la carte est très robuste, mais quand même, on peut pas assurer à 100% que la donnée qu'on fournit, elle est exacte, parce qu'il faut aller faire quand même un inventaire terrain pour la vérifier.
Alors justement, pour la prochaine question, je m'adresse à vous, Emmanuel. Quelle méthodologie est utilisée dans le programme ?
Donc effectivement, comme le disait Claire, l'objectif de cette carte, c'est vraiment de pré-localiser, pré-identifier des zones naturelles à enjeu. Ce qui empêche pas, ce qui sera juste un préalable en fait pour une expertise, un inventaire de terrain. Là, on est sur une carte qui est une carte de modélisation. Pour faire simple, on peut dire que les botanistes des CBN, alors les CBN, c'est les conservatoires botaniques nationaux, ils ont fourni ce qu'on va appeler des jalons que les équipes de modélisation, donc qui sont l'Institut géographique national, l'IGN. Et un laboratoire de l'Université de Saint-Étienne qui s'appelle EVS-ISM. Donc, ces équipes de modélisation, à partir des jalons, elles ont extrapolé et elles ont produit une carte modélisée. On pourrait dire que c'est un peu la même chose que quand on produit une carte météorologique à partir des informations qui sont fournies par les stations météo. Donc, le résultat, c'est vraiment une carte d'alerte qui est très riche d'informations à une échelle assez fine, qui permet de visualiser des zones minimales de 5000 m² environ, donc on est à l'échelle de la parcelle à peu près, hein. Grâce à ça, on peut comprendre l'organisation du patrimoine naturel à l'échelle d'un territoire. Alors en fait, il y a trois produits associés à CARAB. Il y a une première carte qui va définir les zones écologiquement homogènes. Cette carte isole des zones qui ont les mêmes paramètres d'humidité, d'acidité, de climat. En fait, il y a 8 paramètres en tout qui sont combinés. La deuxième carte, elle peut s'apparenter à une cartographie d'occupation des sols, une cartographie d'occupation des sols très raffinée, parce qu'en général, les cartographies d'occupation des sols, elles sont pas très détaillées sur les milieux naturels. Donc là, la valeur ajoutée de cette carte, c'est vraiment cette finesse sur les milieux naturels. Et en fait, la troisième carte, c'est la jonction des deux premières, et c'est la carte des habitats naturels. Donc on a trois cartes qui peuvent s'utiliser ou indépendamment les unes des autres ou en combinaison. Et c'est le gros plus de cette carte CARAB, puisqu'on a trois cartes pour le prix d'une en fait. Donc en fonction de votre problématique, en fonction de votre projet, vous utiliserez une de ces trois cartes. Mais pour l'identification, pour l'objectif principal qui est l'identification des zones à enjeu, il faudra travailler avec la carte des habitats naturels.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles données ont été utilisées pour produire ces cartes, justement ?
Alors, en fait, pour produire ce que j'ai appelé les jalons, les conservateurs botaniques nationaux, ils ont exploité les données de localisation d'espèces et d'habitats dont ils disposaient dans leur système d'information, ainsi qu'une connaissance générale du territoire. Alors, c'est du territoire, en l'occurrence du département, puisque les cartes ont été produites par département. Et donc à partir de ça, de leur côté, pour la modélisation des physionomies, ce sont des photos satellitales qui ont été utilisées par l'IGN, ainsi que des données spécifiques issues des bases de données de l'IGN ou du CEREMA. Et pour l'autre carte principale, pour la modélisation des biotopes, le laboratoire EVS-ISM, il a lui utilisé des données topographiques, des données climatiques, des données géologiques et tout un ensemble d'autres informations. il y avait une trentaine de variables qui en fait ont été utilisées par le laboratoire en question.
Il n'existait pas encore de carte des habitats naturels en France avant Carab ?
Si, il faut citer la carte de la végétation de la France qui a été produite par le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, entre 1947 et 1991. Mais alors déjà, les derniers feuillets ont déjà plus de 30 ans. Et cette carte, elle a été produite à l'échelle du 1/200 millième. Donc, ce qui est beaucoup moins précis, beaucoup moins fin que l'échelle de Carab, qui est du 25 millième. Mais malgré ça, ce programme cartographique, il a représenté un progrès qui a été énorme au cours du XXe siècle dans la connaissance de la répartition et du fonctionnement des habitats naturels. Donc, on peut espérer que Carab ait la même réussite à l'avenir, qu'il apporte également beaucoup de connaissances.
Et comment sont diffusées les données ?
Alors, ces données, elles seront diffusées le 20 avril prochain pour 20 départements. Donc, ces départements, ils sont en Bretagne, ils sont en région Centre-Val de Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Hauts-de-France, et il y a également les départements du Bas-Rhin et de la Savoie. Donc, il y aura une interface web dédiée à la diffusion de ces cartes. Elle sera gérée par Patrinat, et elle permettra à la fois la consultation des cartes en direct sur le système d'information, sur le site web, et le téléchargement des cartes. Les cartes, elles seront également visibles sur le géoportail de l'IGN. Donc, tout le monde pourra consulter ces cartes.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause, on va écouter un témoignage, celui d'Adrien Paget, qui est responsable de la thématique environnement et risque à l'agence Topos des territoires de l'Orléanais. On écoute tout de suite et on revient juste après pour les questions. Adrien Paget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la thématique environnement et risque à l'agence Topos des territoires de l'Orléanais. Quel était votre besoin ?
Alors nous, en fait, nous sommes en partenariat avec Orléans Métropole et nous disposons en fait d'un observatoire de la biodiversité que nous copilotons. Et donc, dans ce cadre-là, la métropole d'Orléans avait souhaité que l'agence d'urbanisme en fait mette à jour le modèle initial de sa trame verte et bleue. Du coup, l'agence a opté pour une méthode de modélisation qui est basée sur ce que l'on nomme les aires de migration simulées des espèces. Cette méthode, si vous voulez, nécessite d'avoir des informations précises sur les espèces retenues et sur leur milieu de vie privilégié, à partir duquel, en fait, elles peuvent se disperser dans les paysages. En fait, ces milieux de vie, ce sont ce qu'on appelle plus communément des réservoirs de biodiversité. Ce sont les points de départ de notre modèle. Et si vous voulez, outre ces informations scientifiques, il est également nécessaire d'avoir des données géographiques suffisamment précises, en fait, pour caractériser, si vous voulez, les usages du sol et définir, en fait, les points de départ, donc, de notre modèle, et également définir les distances de dispersion de chaque espèce. Donc, si vous voulez, une fois qu'on a l'ensemble de ces informations, ça va permettre de caractériser les réservoirs de biodiversité et donc de permettre à notre modèle d'avoir des points de départ suffisamment fins. Et dans ce cadre-là, en fait, on va utiliser, nous, des données de notre observatoire de l'occupation du sol. Mais hélas, en fait, ces données, si vous voulez, il fallait les préciser avec des données sur les milieux naturels, parce que notre observatoire, malgré sa finesse, n'est pas suffisamment bien détaillé dans les milieux naturels. Et c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, qu'on a utilisé les données Carab. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, dans notre occupation du sol, les grands boisements qui composent en fait notre territoire, tels que la forêt d'Orléans ou la Sologne, dans nos données, sont considérés comme des boisements et ils n'apportent pas de détails en fait sur les types de milieux forestiers. Et du coup, on pense que tout est homogène. Et c'est là que les données Carab vont être importantes.
Et alors, comment vous avez eu l'idée en fait de solliciter cet outil ?
Alors, la modélisation, si vous voulez, de la trame verte et bleue nécessite un appui scientifique important. Et à l'agence, on a donc monté avec la métropole un groupe de travail qui associe entre autres le Conservatoire botanique du bassin parisien, qui disposait de données sur la flore. Et le Conservatoire botanique, une fois associé, nous a présenté, si vous voulez, l'outil Carab, et il a rapidement aussi identifié le potentiel de leurs données dans notre démarche. Et dans ce cadre-là, il y a eu un partenariat qui a été instauré de longue date avec Orléans Métropole, puisqu'ils sont partenaires depuis 2018-2019. Et du coup, on a eu la possibilité d'obtenir cette donnée CARAB, qui est encore à un état un peu expérimental, parce qu'on n'a pas la totalité de la donnée, on n'a que la couche de physionomie, mais cette donnée déjà nous a beaucoup servi donc pour effectuer des tests qui se sont révélés très, très concluants.
Et alors, dernière question, concrètement, qu'est-ce que cet outil vous a apporté? Quels ont été les résultats?
Alors, à l'agence, on a donc rapidement amélioré en fait la précision de la modélisation et sa valeur scientifique. On a testé, si vous voulez, ces données dans un premier temps sur la sous-trame des milieux boisés. Et effectivement, les espaces de boisement que l'on pensait homogènes, finalement, ne le sont absolument pas. Les forêts d'Orléans et de Sologne ont donc été caractérisées par l'ensemble des physionomies disponibles dans les données CARAB. Et de fait, on s'est bien rendu compte que certaines espèces ne se déplacent pas forcément de la même façon et avec la même facilité d'un type de boisement à un autre. Donc, on a également pu discriminer, si vous voulez, les secteurs qui constituaient des réservoirs de biodiversité. Donc, cette donnée, en fait, répond très, très bien aux attentes d'une modélisation des aires de migration simulée. D'autant que là, en fait, elle va être enrichie et ça complétera, si vous voulez, la modélisation de d'autres sous-trames. Par exemple, là, on est en train de tester sur la sous-trame des milieux ouverts en prenant les données CARAB sur les milieux prairiaux notamment. Et au-delà de cette modélisation trame verte et bleue, à l'agence, on a testé aussi la donnée CARAB dans un autre contexte, qui est c'est celui de l'élaboration, si vous voulez, d'un PLUI. Et donc, en analysant les espaces de potentiel de densification dans les milieux déjà urbanisés, on a proposé, si vous voulez, aux élus des critères aussi bien quantitatifs que qualitatifs, dont la physionomie des milieux naturels. Donc cette physionomie qui est caractérisée par la donnée CARAB a joué un rôle important. Ça a permis, par exemple, d'écarter certains secteurs, par exemple un boisement qui était considéré comme un potentiel de densification. Finalement, il a plutôt un rôle de régulateur thermique, il participe à un corridor écologique. On se rend compte que c'est un milieu naturel important pour le secteur. Et du coup, ces critères, ça complète, si vous voulez, l'approche fonctionnelle qu'on a l'habitude d'avoir dans ce genre de démarche. Si vous voulez, cette approche accompagne en gros la conception de projets en prenant en compte le vivant et des solutions d'adaptation fondées sur la nature dans les aménagements. Du coup, si vous voulez, pour un peu conclure, la donnée CARAB, en quelque sorte, pour nous, est une grande utilité pour lancer, notamment dans ce genre de démarche, des alertes finalement sur certains secteurs sensibles et du coup ça permet, si vous voulez, de mettre en œuvre une stratégie d'évitement et même on peut également élargir ça à la conception à venir de schémas de renaturation ou de compensation. Donc si vous voulez, voilà, la donnée CARAB, elle va avoir une importance capitale dans les années qui arrivent justement pour déterminer tous ces éléments de stratégie d'évitement. ERC, éviter, réduire, compenser.
Voilà pour le témoignage d'Adrien Paget, qui est responsable de la thématique environnement et risque à l'agence Topos des territoires de l'Orléanais. On retourne en plateau, donc je m'adresse à vous, Claire. La direction de l'eau et de la biodiversité a lancé un appel à manifestation d'intérêt à l'occasion d'un webinaire le 20 avril. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors oui, effectivement, donc le 20 avril, ce sera un grand jour pour nous puisqu'on va diffuser les premières données CARAB, donc les 20 premiers départements. Et à cette occasion, on organise donc un webinaire de 9h30 à 12h30 auquel vous pouvez déjà vous inscrire. Et puis, on en profitera pour lancer donc l'appel à manifestation d'intérêt sur les données CARAB. Alors pour nous, cet AMI va être vraiment important parce que là, ça fait déjà beaucoup d'années en fait qu'on travaille sur ce programme. On a conscience en fait des cas d'usage, mais on a besoin quand même de s'éprouver un petit peu sur le terrain et voir avec les utilisateurs si l'appropriation des données est facile, si on peut améliorer la documentation, voilà. Donc pour nous, l'appel à manifestation d'intérêt, c'est un moyen de mettre à disposition la donnée, de favoriser l'émergence de projets et d'inciter les porteurs de projets à nous faire un retour d'expérience. Donc on va sélectionner l'appel à manifestation d'intérêt, il va démarrer le 20 avril, il se clôture le 9 juin, et donc au cours du mois de juin, on va sélectionner les projets lauréats. Il y aura une dizaine de projets qui vont être sélectionnés et pour chaque projet, on souhaite cofinancer le projet à hauteur de 20 000 euros maximum. Il faut que le projet ensuite débute entre septembre 2023 et mars 2024 et il ne doit pas dépasser une durée totale d'un an. Donc les candidatures se seront à transmettre via le site Démarche Simplifiée et puis vous pouvez aussi retrouver tous les éléments de cet appel à manifestation d'intérêt sur le site d'Aide et Territoires ou sur le site du ministère, sur le site de l'INPN. Enfin voilà, donc si vous tapez programme CARAB sur internet, appel à manifestation d'intérêt, vous trouverez très facilement les informations.
Et bien voilà, c'est noté. Quelles sont les pistes de développement à venir ?
Là, c'est déjà donc une première marche importante qu'on est en train de franchir. Pour la suite, l'année prochaine, il y aura une nouvelle vague de diffusion. Encore une vingtaine de départements qui vont être diffusés. Et on fera un nouvel appel à manifestation d'intérêt sur ces nouveaux territoires. Donc, je vous conseille de suivre de près le programme pour voir si vos territoires sont concernés. Et on prévoit, nous, de notre côté, un déploiement total du programme et des données en métropole d'ici fin 2025. Et les Outre-mer devraient suivre dans la foulée. Alors la suite, la carte sera mise à jour tous les 6 ans, à partir de 2025. Donc il faut comprendre que c'est un programme qui va être structurant et pérenne. Donc on va continuer à travailler dessus, il va s'améliorer au fil du temps et il deviendra, on l'espère en tout cas, un socle de connaissances très important sur lesquels tous les acteurs pourront s'appuyer pour cette bonne prise en compte de la biodiversité dans leurs projets d'aménagement. Alors, un autre élément à noter, c'est que le réseau des conservatoires botaniques nationaux, il aura un rôle fondamental, en fait, d'accompagnement des acteurs. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous en faire part et à prendre la tâche de votre conservatoire botanique national sur votre territoire. Et il vous accompagnera ou du moins répondra à vos questions si vous en avez.
Eh bien, merci beaucoup Claire, merci également à Emmanuel qui est à distance pour vos éclairages. Je m'adresse maintenant à vous Hélène, a-t-on eu des questions de nos chers auditeurs sur le chat en ligne ? Je rappelle que vous pouvez poser vos questions, d'ailleurs allez-y, hein, c'est le moment si vous en avez.
Tout à fait Bérénice, alors on a une première question d'auditeur. Concrètement, comment connaître la période où mon département, sera, en tout cas les données seront disponibles sur CARAB ?
Alors sur le site de l'INPN, vous avez une carte en fait de la France où on a indiqué déjà en fait les départements qui seront déployés dès ce printemps et ceux qui seront déployés en théorie l'année prochaine. Après, les choses bougent toujours un petit peu selon le contexte politique. On peut avoir des départements qui demandent à passer en priorité parce qu'ils ont des SRADET, des choses à refaire dans l'urgence et il ne faut pas louper le coche. Donc pour nous, on adapte aussi notre agenda en fonction de ces contraintes-là. Mais en général, voilà, on met la carte sur le site du ministère ou sur le site de l'INPN. Vous avez la carte qui présente les départements. S'il y a des besoins très particuliers et urgents liés à un contexte politique, il ne faut pas hésiter non plus à nous le dire. On peut adapter notre agenda aussi en fonction de ces opportunités-là.
Merci. Alors, on a une seconde question, là, plutôt sur l'appel à projet, l'ami qui va se lancer le 20 avril prochain. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez illustrer des types de projets qui seront éligibles ?
Déjà, il y a le projet d'Adrien qui nous a été présenté tout à l'heure dans la capsule, donc qui a refait en fait une trame verte et bleue en intégrant les données CARAB. Il a travaillé également, et donc ça c'était plutôt une surprise pour nous et on était très contents, sur un PLUI HD, donc voir comment en fait en localisant des zones à un niveau très fin, des zones naturelles, comment elles peuvent aider en fait à s'adapter au changement climatique, à prendre en compte voilà, des enjeux vraiment liés à la collectivité. Après nous on est plutôt aussi sur de l'évitement, donc ce qu'on cherche aussi à savoir c'est sur les projets en fait d'aménagement qui sont menés, s'assurer qu'il y ait la connaissance suffisante pour pouvoir éviter des zones qui sont fortement à enjeu et redessiner en fait le projet d'aménagement s'il le faut pour l'écarter de zones que l'on veut absolument protéger.
Merci. Alors, on a une autre question d'auditeur. Comment CARAB pourra contribuer à élaborer la planification territoriale ?
C'est encore la même chose, hein, en fait, sur l'aménagement. Vraiment, ce qui blesse aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas, en fait, ces localisations de zones naturelles à enjeu à un niveau aussi fin. On peut l'avoir, parfois il peut y avoir des zones où on l'a très bien, mais en fait il y a une grosse hétérogénéité en France, il y a vraiment des régions, des départements qui n'ont pas accès en fait à ce type de données. Et donc l'enjeu pour nous, c'est qu'elles soient mises à disposition pour tout le monde, de façon homogène, qu'il y ait la même méthodologie partout, qu'on puisse se comparer aussi en fait au territoire d'à côté. Et puis surtout ces questions de services écosystémiques qui sont importants. En termes de planification, à la fois il faut éviter en fait des zones à enjeu, mais il faut aussi en fait prendre l'opportunité de les valoriser au maximum et de se dire que ce n'est pas un frein, c'est un atout de mon territoire et je veux le mettre en avant. Alors ça peut se faire via le tourisme bien sûr, mais ça peut se faire aussi en termes de génie écologique, en fait ne pas toujours se baser sur du génie civil mais se dire que peut-être cette zone elle a l'air de rien mais elle répond en fait à un enjeu que j'ai. Et nous c'est vraiment notre but, c'est d'apporter en fait cette information au territoire et de les aider à analyser leur patrimoine, à valoriser ce patrimoine et qu'ils en sont fiers.
Merci. Alors, on a beaucoup de questions ce matin. Là, on va partir sur le territoire de la Bretagne. On a des auditeurs en Bretagne qui nous demandent quelle différence et ou complémentarité avec les cartes de végétation publiées récemment par le Conservatoire botanique de Brest pour les départements bretons. Alors, ça peut être qu'Emmanuel peut...
Tout à fait, oui. Alors effectivement, le travail qui a été fait pour les départements bretons, là, c'était un peu un précurseur aussi de ce qui a été fait pour Carab. Alors déjà, il y a une donc Carab représente une actualisation déjà de ce qui a été fait. C'est plus récent. Et surtout, comme l'a dit Claire, la méthodologie est uniforme au niveau de la France métropolitaine. Et donc, on peut comparer ce qui est présent sur le territoire breton avec ce qui est présent dans les départements, dans les régions d'à côté. Et donc, on peut savoir quelles sont les différences entre le territoire breton et le territoire normand, par exemple.
Claire, vous voulez compléter ?
Oui, tout à fait. En fait, on travaille beaucoup avec les acteurs en Bretagne sur ce projet-là. On a bien conscience qu'ils ont déjà une carte, donc on a fait l'effort vraiment de collaborer avec eux. Et c'est une collaboration qui est très riche, en fait, parce que comme ils ont commencé un peu les choses avant nous, on s'inspire aussi en fait de la manière dont ils ont travaillé, de la documentation, la façon dont ils ont approché les utilisateurs. Donc pour nous, c'est une belle collaboration en fait qu'on est en train de mener avec eux. Mais on en profite aussi pour leur apporter en fait un socle méthodologique un peu différent et qui leur apporte des éléments qu'ils n'avaient pas nécessairement avant.
Si, alors si on a le temps, on prend encore une autre question. Là, peut-être avoir un éclairage sur votre département, Emmanuel. Qu'est-ce que les données apportent, peut-être, ou alors en termes d'alerte, qu'est-ce que vous pouvez nous partager ?
Alors, sur le territoire dont est chargé le Conservatoire botanique national de Bailleul, nous avons produit les cartes de la Somme et du Pas-de-Calais. Donc, ces cartes, elles permettent. Alors, le nord de la France, historiquement, pour tout un tas de raisons, c'est un territoire qui est déjà assez connu sur le plan des habitats naturels. Mais, ces cartes, elles apportent une meilleure compréhension du territoire dans l'ensemble, en fait. Elle offre une lecture, en fait, du territoire, donc des départements, en l'occurrence. Et elle permet vraiment de mieux comprendre la nature du patrimoine naturel, les particularités, on pourrait dire, du patrimoine naturel dans le Pas-de-Calais, les enjeux qui le recèlent et donc la responsabilité qu'ont les départements pour la protection du patrimoine naturel. Par exemple, dans le nord de la France, un des gros enjeux, c'est le littoral, donc à la fois le littoral de la mer du Nord et le littoral du Pas-de-Calais. Et donc cette carte, elle fait ressortir ces enjeux-là. On les localise mieux, plus précisément, et toujours sur une méthodologie qui est uniformisée. Pareil pour les marais qui sont dans les diverses vallées de la Somme, de la Canche, de l'Authie, etc. Ils sont localisés, leurs similitudes sont identifiées, leurs différences sont identifiées. Donc voilà, c'est vraiment une grille de lecture en fait qu'on va vraiment pouvoir enrichir. Au fur et à mesure de l'utilisation par, en croisant avec les connaissances sur la répartition des espèces de flore, d'animaux, etc. Donc c'est vraiment une grille de lecture.
Merci Emmanuel. Alors on a des questions très, très précises de nos auditeurs. Le déploiement de CARA pour le département du Maine-et-Loire n'est pas prévu en 2023. Pourquoi ? Alors c'est peut-être le cas aussi d'autres départements. Est-ce qu'il y a des explications à donner à nos auditeurs ?
Oui, il y a plusieurs explications. D'abord, il y a un côté un peu technique en fait où on a débuté en fait dans certains départements parce que voilà, historiquement, on avait déjà travaillé dessus, on avait ce qu'il fallait. Et puis on a une méthode en fait qui se déploie comme un escargot, si vous voulez, parce qu'on profite des premières connaissances sur un département pour ensuite déployer sur le département d'à côté. Donc il y a un peu cette idée là aussi de déploiement de ce type là. Donc on a plusieurs foyers. Dans le nord, dans Bretagne, dans le sud, qui ont débuté. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des opportunités politiques. Donc nécessairement, on a des acteurs qui sont venus vers nous en nous disant, là, il y a une belle opportunité, il y a un beau projet qui est en train de se faire, mais il nous faut en fait des données assez rapidement, et si on l'a pas, on loupe le coche. Et pour nous, c'était dommage en fait. Donc on essaye de mixer un peu le côté technique et aussi le côté politique, mais c'est pas toujours évident. Mais pour nous, c'est un peu, on le fait un petit peu, on le fait un peu en même temps qu'on marche, quoi. C'est pas toujours évident.
Merci Claire. Alors, pour le moment, pas d'autres questions.
Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, des questions. Merci beaucoup. Cette émission consacrée à l'outil CARHub touche à sa fin. Merci à vous, en tout cas, chers auditeurs. Merci à Claire de Carmadec. Merci à Emmanuel Cato. Merci également à vous, Hélène Parmentier. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations liées à CARHub sur, évidemment, le site. Vous l'avez cité tout à l'heure, Claire, ecologie.gouv.fr/programme-CARHub. Et sur également le site inpn.mnhn.fr. Pareil, vous tapez programme CARHub. Vous pourrez trouver ce podcast aussi sur le site et l'application de Radio Territoria. On vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à bientôt dans le MAC de l'aménagement, du logement et de la nature.
Le MAC de l'aménagement, du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.